Bonsoir. Plus de 170 millions de francs congolais sont soutirés mensuellement du trésor public par un réseau mafieux démantelé. Déclaration du ministre d'État au budget de la semaine dernière à Kinshasa. D'après Michel Bongongo, ce détournement est plus effectué dans le secteur de la santé sur les primes des médecins. Quelle analyse faire de cette déclaration du ministre? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois professeur Michel Bongongo. Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ministre d'État au budget, Jean-Jacques Mamba. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du MLC, parti de l'opposition. Alki Tengue, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Vous êtes analyste économique et stratège. Merci à tous de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Ainsi que je le disais dans le sommaire, plus de 170 millions de francs congolais sont soutirés mensuellement du trésor public à Kinshasa par un réseau mafieux démantelé. Le ministre d'État au budget l'a signifié la semaine dernière à Radio Capi. On écoute le professeur Michel Bongongo au micro d'Askin Zigbia Tayoro.
Nous avons plusieurs catégories d'irrégularités. Nous avons des triplons, des doublons. Nous avons des médecins décédés mais payés, des fictifs. Nous avons un manque à gagner mensuel de 174,586,293,95 francs congolais, soit près de 2,7 milliards de francs congolais par an, ce qui cause un préjudice à l'État congolais qui se voit incapable de procéder soit à l'alignement de nouveaux médecins, soit à l'amélioration de l'enveloppe salariale. Le gouvernement de la République a demandé, sous la coordination du Premier ministre, de mettre en place la dynamique de la rationalisation de la dépense publique pour voir comment nous allons démanteler le réseau.
Professeur Michel Bongongo, vous êtes ministre d'État au budget. On vous entendait là faire cette annonce. Professeur, pour commencer, et comment avez-vous pu démanteler ce réseau mafieux?
Merci, journaliste. C'est très simple. Nous avons eu une instruction du chef du gouvernement, le Premier ministre, de mettre en place une commission interministérielle composée du ministre du budget, du ministre de la fonction publique, du ministre des finances et du ministre de la santé publique, et avec les différents syndicat des médecins, Inamed, Timeco, un collectif des médecins non alignés à la prime des risques professionnels. Tout est parti de la réclamation des jeunes médecins. Le gouvernement avait pris l'engagement d'aligner chaque année 500 médecins. Et le gouvernement s'est trouvé dans l'impossibilité, n'est-ce pas, de respecter cet engagement. Et après discussion, négociation avec les jeunes médecins, on a décidé qu'au moins il y ait 300 médecins pour le deuxième trimestre 2015. Et 300 autres aussitôt les ressources dégagées. Quand on s'est mis alors dans cette commission de contrôle présidée par le ministre de la fonction publique, il s'est dégagé des irrégularités énormes dont nous avons parlé, vous venez d'en parler.
Alors, professeur, il y a votre collègue, le professeur Ignace Ndala, qui nous écrit de Kolwezi au Katanga, qui dit « Cette déclaration suscite la problématique de la fraude et de l'efficacité des systèmes de contrôle dans la gestion des finances publiques. Comment telle magouille peut se dérouler pendant plusieurs années et depuis qu'on est au pouvoir, plus d'un mois après, on ne s'en aperçoit pas ?»
Le grand problème que nous avons au niveau de la direction de la paye, c'est la non-informatisation du système, n'est-ce pas, de la paie. Les agents travaillent de façon manuelle, ils manipulent des milliers de listings et voilà, la tentation est grande, n'est-ce pas, d'entrer dans cette magouille. Et le Premier ministre, chef du gouvernement, a décidé de mettre fin à cette situation.
Certaines sources nous ont affirmé, Monsieur le ministre, qu'au sein de votre ministère, ces derniers temps, il y a ce qu'on appelle le confessionnal où certaines personnes viennent faire des aveux. Est-ce que vous le confirmez?
Oui, nous avons mis sur instruction du Premier ministre une dynamique d'auto-sanction. C'est-à-dire que le personnel de la paie, beaucoup, la grande majorité, a décidé de mettre fin à ce réseau. Il n'y a pas que le personnel de la paie, n'est-ce pas, du ministère du budget. La paie, la direction de la paie n'est que le maillon, le terminal, n'est-ce pas, de cette chaîne. Nous avons décidé de couper ce maillon-là et maintenant nous allons remonter vers les différentes administrations des ministères sectoriels.
Alors, peut-on affirmer, Monsieur le ministre, que c'est le début d'une opération main propre de grande envergure?
Oui, il y a effectivement. Ce n'est pas vraiment le début. C'est-à-dire que maintenant, on a rendu public, n'est-ce pas, ce que l'on est en train de faire, parce que comme preuve, nous avons par exemple la synthèse des rapports préliminaires des missions de contrôle et d'encadrement de la paie dans les provinces du Bas-Congo, de l'Équateur, du Sud-Kivu, du Maniema et de la province de Kinshasa depuis le mois de janvier et le mois d'avril 2015. Nous avons diligenté des missions dans ces provinces. Nous pouvons vous donner quelques illustrations pour que vous ayez, n'est-ce pas, une petite idée. Par exemple, pour le Bas-Congo, c'est le rapport définitif, nous avons l'existence dans le fichier de salaire de base de la direction de la paie de 101 doublons pour un impact mensuel de 6 997 981 au troisième trimestre 2014, soit près de 50 noms à élaguer du listing, 97 doublons pour un impact mensuel de 7 991 514 au quatrième trimestre
professeur,
2014. Nous avons comme ça...
Professeur
Allô?
Professeur, souffrez que je vous arrête à ce niveau.
Oui.
En un mot, quelles sont les sanctions qui sont prévues à l'endroit de ces faussaires?
Les sanctions, d'abord, vous savez, la sanction, elle est toujours individuelle. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est d'abord, n'est-ce pas, éduquer, n'est-ce pas, les fonctionnaires, nos agents qui sont habilité, n'est-ce pas, à faire ce travail. Nous avons quelques cas exemplatifs de révocation ou de mise, n'est-ce pas, à la disposition de la fonction publique.
Merci.
Mais pour le gros lot, nous avons maintenant une campagne d'auto sensibilisation.
Merci.
Et ça se passe. Il y a aujourd'hui ce que vous avez évoqué, le confessionnal. c'est chaque jour, les gens
Merci.
Viennent
Merci, monsieur le ministre.
Dénoncer, se dénoncer.
Merci, professeur. Je vous redonne la parole tout à l'heure. On a compris que la démarche est pédagogique. Jean-Jacques Mamba, vous êtes porte-parole du MLC, parti de l'opposition. Comment vous analysez cette déclaration du ministre sur toutes ces fraudes?
Écoutez, je commencerai par vous remercier pour votre invitation. Et je ne peux que constater que son Excellence Monsieur le Ministre fournit des efforts pour apporter un minimum de clarté et de transparence dans la gestion de la chose publique. Mais je suis tout à fait étonné que nous sommes en train de parler du gouvernement Matata 2, le gouvernement pour lequel il y avait d'abord un gouvernement des surdoués, si je ne m'abuse. Ensuite, nous avons parlé de la révolution de la modernité, dont la modernité aussi c'est de la parcimonie dans la gestion de la chose publique. La modernité, c'est l'informatisation de la paie, c'est aussi le fait de connaître exactement qui sont nos fonctionnaires, les identifier, l'identification des fonctionnaires. Donc je pense que à 2 années de la fin d'un mandat, c'est assez, je sais pas, je suis très dubitatif à entendre que le nouveau ministre, après 1 mois, décèle ce genre de fraude, alors que ces fraudes existaient depuis belle lurette. Bon, ça peut arriver, nous sommes dans un système qui doit se perfectionner. Maintenant, je suis souvent gêné dans notre pays, parce que bon, là on parle des médecins, je suis gêné dans notre pays lorsqu'on parle de salaire, surtout pour la fonction publique. Je pense que moi je fais un distinguo entre un salaire et une indemnité. Une indemnité, c'est une rémunération payée en contrepartie d'un dommage. Et le dommage dans ce pays, c'est que les gens n'ont pas de salaire. Lorsqu'on veut parler de salaire, on doit avoir un encadrement social par 2 mesures, c'est-à-dire l'indice à la consommation et aussi le panier de la ménagère. Donc pour aller très très clair, un fonctionnaire aujourd'hui, qui ne sait pas payer son loyer, qui ne sait pas envoyer ses enfants à l'école, c'est-à-dire que si on prenant loyer par exemple de $200 et des indemnités de transport et tout ça, un fonctionnaire qui gagne moins de $700 et $800 ne peut pas dire qu'il reçoit un salaire, il reçoit une compensation financière du fait qu'il n'a pas de salaire. Donc déjà à ce niveau-là, les efforts du gouvernement devraient, en lieu et place, de nous exhiber toutes les infrastructures les plus sophistiquées du monde congolais, parce que bon, je vais bien dire ici que elles ne sont pas si sophistiquées que ça. Le gouvernement s'est évertué dans les infrastructures sans s'occuper réellement des vrais problèmes des gens, c'est-à-dire voir dans quelle mesure on pourrait rendre à ce fonctionnaire de la fonction publique ses lettres de noblesse en donnant un salaire qui est décent. Donc jusqu'à preuve du contraire, ça fait à peu près 25 ans que dans ce pays, les fonctionnaires ne reçoivent pas de salaire, mais reçoivent des indemnités qui sont conséquentes au fait au dommage du fait qu'elles n'ont pas leur salaire. Maintenant, si on doit revenir au problème, je suis aussi tout à fait stupéfait que M. Bongongo, son Excellence le ministre du Budget, nous dise, et il le dit si bien, que tout ceci arrive parce que il n'y a pas eu informatisation. Mais ce qui m'étonne, c'est que comment on peut faire 10 ans dans un pays et on n'arrive même pas à informatiser la paie et identifier tous les fonctionnaires par un matricule et informatiser la paie. J'ai eu l'impression que on a lancé des mesures de bancarisation et vous allez voir plusieurs acteurs dans ces mesures. Vous avez d'abord un réseau bancaire qui est tout à fait déficient parce que nous n'avons pas des actions, notre État n'a pas d'action prépondérante dans une banque qui peut avoir de l'emprise sur tous les territoires nationaux pour permettre la paie de tout le monde. Alors ce qui fait que nous faisons intervenir la Caritas, nous faisons intervenir les opérateurs économiques, on paye des gens par des SMS et tout ça. Donc dans ce type d'embougriot, ça ne devrait étonner personne qu'à un certain moment il y ait de la fictivité, qu'il y ait des trous dans les paies et ainsi de suite. Donc moi je veux dire que l'État, dans son incapacité, n'a pas eu un plan stratégique qui lui permettait de savoir comment est-ce qu'il allait d'abord lancer la bancarisation et comment il allait assurer non seulement la paie, mais le contrôle de sa paie. Donc à ce niveau-là, je pense que nous sommes dans une forme d'échange. C'est tout à fait décent pour moi de dire que c'est vraiment une faillite de l'État et qu'aujourd'hui qu'on nous dise qu'au Bas-Congo, je vois ici un chiffre, 101 personnes, 101 fictifs au Bas-Congo, ça fait 1 mois que le gouvernement est en place, nous sommes dans une période électorale, donc jusqu'à la fin de cette mandature, on ne sait pas si on pourra faire ce travail sur toute l'étendue de la République et si le nouveau gouvernement qui viendra pourra déceler ce type de faille. Donc je pense qu'à ce niveau-ci, nous ne pouvons qu'encourager, bien que nous constatons que c'est fait très tardivement, et nous espérons vraiment que pour le peu de temps qui reste, on ne va pas simplement se limiter à informatiser, mais donner un vrai et un réel pouvoir d'achat à ce que nous appelons communément salaire, mais qui pour moi est une indemnité.
Alors Jean-Jacques Mamba, il y a plusieurs séminaires, forums nationaux, internationaux de lutte contre la corruption qui ont eu lieu en RDC, la corruption, la fraude, le coulage des recettes, mais cet exemple prouve que les mauvaises habitudes ont la peau dure.
Oui, mais écoutez, les portes des prisons étaient ouvertes, disait le chef de l'État, il y a plus ou moins 4 ou 5 ans, et n'ont jamais accueilli les personnes qui avaient commis des malversations
et
financières.
Et pourquoi, à votre avis?
Mais écoutez, nous sommes dans un système où l'exemple doit être donné d'en haut. Ça veut dire que la plupart des... Vous avez ici, de manière très ostentatoire, les dignitaires ou ceux qui sont au pouvoir, qui s'enrichissent de manière exponentielle. Donc eux-mêmes ne sont pas des donneurs d'exemple. Donc dès l'instant que vous êtes dans un quartier et que vous avez une personne qui devient ministre et que le lendemain, vous voyez qu'il fait 3-4 étages et qu'il a un char automobile de 15 véhicules, même si on vous explique que la corruption est mauvaise, vous n'allez pas suivre l'exemple parce que nous sommes en osmose avec des autorités qui ne sont pas des donneurs d'exemple. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que si nous donnons l'exemple en sanctionnant des délits de détournement de fonds publics, de deniers publics, en ce moment-là, celui qui doit suivre, c'est-à-dire le peuple, pourra tirer cet exemple et prendre la mesure de la nécessité d'avoir de la parcimonie et d'être correct dans la gestion des affaires publiques. Mais dès l'instant que nos dirigeants ne s'appliquent pas finalement à donner cet exemple-là, ben je pense qu'on pourra continuer à parloter, à donner tous les slogans du monde entier, mais bon, ça ne va pas fonctionner.
Alors, le ministre, le professeur Bongongo, a évoqué un certain nombre de sanctions, notamment des sanctions pédagogiques, l'éducation, certaines sanctions négatives, révocation et autres. Quelle lecture vous faites de ces sanctions?
Écoutez, je suis tout à fait désabusé de constater qu'un fonctionnaire, un fonctionnaire de 50 ans, va lui faire des leçons de morale. Je pense qu'il y a des lois dans ce pays, que ces lois-là doivent être respectées et appliquées. Donc, dès l'instant qu'un délit est commis et que la personne a été identifiée, elle doit être sanctionnée en fonction de notre code. Lorsqu'on me parle d'auto-sanction et tout ça, je trouve ça tout à fait dérisoire. Nous sommes dans un État. Et je pense que ce qui manque dans ce pays, c'est que nous avons des lois qui ne sont pas respectées. Il n'y a pas de sanctions qui s'en suivent. Je pense que la meilleure manière de donner l'exemple, effectivement, si on rencontre des personnes qui ont commis des délits et que ces faits sont avérés, ben ces personnes doivent être sanctionnées selon la loi. Si aujourd'hui, quelqu'un détourne 100 000 dollars et vous lui dites, bon écoutez, ne refaites plus ça, vous pensez vraiment que les gens suivront un bon exemple? Je ne suis pas d'accord avec cette vision-là. Je pense qu'il faut sanctionner.
Merci. Alki Tengue, vous êtes analyste économique et stratège. Vous venez de suivre le professeur Bongongo, également Jean-Jacques Mamba. Quelle est votre analyse par rapport à cette déclaration du ministre?
Je me sens malheureux d'entendre ce que le ministre a dit, non pas parce que ça fait rire, mais parce que ça fâche. Mon point de vue, c'est que le ministre a été théâtral. Ce n'est pas acceptable ce qu'il dit. Un, si il est vrai que des gens ont été identifiés et que ils sont passés aux aveux, ce n'est pas excusable. On ne doit pas réfléchir deux fois. On doit montrer l'exemple avec la plus haute sévérité possible. Qu'à cela ne tienne, j'ai envie de dire quelque chose de très simple. La faiblesse, elle est structurelle. L'État congolais est extrêmement faible en termes d'organisation. Et j'en veux pour exemple deux choses. On est en train de parler de la prime des médecins. Savez-vous qu'au-delà de la bancarisation, ce n'est pas l'État congolais qui traite avec les banques. L'État congolais traite avec un syndicat. Et ce syndicat traite avec les banques. Tout le monde sait, tout le monde suit par la presse interposée, qu'un des deux syndicats, qui s'appelle le CIMECO, se plaint depuis 2 ans de ces détournements. Ce n'est pas un fait nouveau. Il y a des écrits à l'adresse du chef de l'État, à l'adresse du Premier ministre, à l'adresse des différents ministres du budget et des finances. C'est une question qui est sur la place publique depuis 2 ans. Ce n'est donc pas une nouveauté. En fait, le ministre l'a dit de manière assez claire, ils ont été poussés de l'admettre publiquement à cause et grâce à la poussée des jeunes médecins qui ne sont toujours pas mécanisés. Je voudrais vous donner un chiffre. Ce pays n'a pas plus de 16 000 médecins en activité. Est-ce que vous vous rendez bien compte que c'est complètement inacceptable? Mais toute la question, c'est de dire, est-ce que nous avons la possibilité d'en avoir davantage? Lorsque vous regardez le cadre budgétaire, la réponse est non. Lorsque mon collaborateur qui est à côté, Jean-Jacques Mamba, parlait tout à l'heure du non-salaire qui est payé aux fonctionnaires de l'État, nous n'avons déjà pas assez de fonctionnaires dans ce pays. Et si on leur donne simplement 400 ou 500 dollars par mois, tout le budget a explosé. Nous sommes un pays extrêmement pauvre. Au lieu de regarder les problèmes spécifiques, il faudrait que nous regardions de manière globale le pays. Il ne fonctionne pas du tout. On ne peut pas espérer gérer un pays avec des salaires de 50 dollars le mois. On ne peut pas vouloir demander de l'éthique aux gens alors qu'on n'est pas dans un système d'équité. Il est important qu'on se questionne de manière fondamentale sur les problèmes réels de la République démocratique du Congo. Et donc, mon point de vue, c'est que lorsque nous parlons de technologie,
Il y a deux choses à faire et la première est très simple. L'État n'est pas équipé pour faire ce que les banquiers appellent le « know your customer », ça veut dire l'identification des gens. Les banques le font très très bien et elles en ont les capacités. La seule chose que nous devrions pouvoir être en mesure de faire, c'est de sous-traiter ce travail au niveau des banques et de récupérer les bases de données en base unique. Mais ça, c'est un travail très compliqué pour l'État congolais. On n'a même pas une base unique pour l'État civil.
Alors, c'est un problème structurel, dites-vous, et donc on peut conclure que ce genre d'efforts comme le fait les ministres seront noyés dans
l'océan. C'est cosmétique, Alain. C'est cosmétique, ça ne résout pas le problème. Et il sait très bien que nous avons le même problème dans l'armée. Il sait que nous avons le même problème dans la police. Et c'est un problème général dans la fonction publique. Ce n'est pas qu'une question des médecins. Ça, c'est la partie visible grâce à l'effort et à la poussée des jeunes médecins. Mais c'est une situation générale. On vous dit que les gens traitent les dossiers par listing. Comment voulez-vous matcher les listings? C'est impossible. Et ça, même une feuille Excel simple en informatique peut vous gérer ce problème. Comment ça se fait que nous ne soyons pas à ce niveau-là? Et moi, je dis encore une fois, nous avons un outil supplémentaire, c'est ce qu'on appelle la biométrie. Elle vous permet d'avoir une identité unique par agent. Deuxième chose, il faut matcher la biométrie et les listings informatiques avec l'état civil. Quand quelqu'un meurt, c'est automatique que l'information soit portée dans la base de données. Et ça, encore une fois, c'est un effort de la gestion globale de l'État. Encore une fois, ça détermine la plus grosse difficulté que nous avons dans ce pays, c'est que les distances physiques équivalent aux distances virtuelles vis-à-vis de l'État. Quelqu'un qui est à Massina est de loin éloigné par rapport à quelqu'un qui est à la Gombe par rapport à l'État. Et quand vous êtes au sud Kivu, c'est encore pire. Et on a l'impression que vous êtes dans un autre pays.
Et donc, comme disait Jean-Jacques Mamba, l'absence d'un plan stratégique fait gravement défaut.
La question de la gestion de l'État en plein 21e siècle est tout à fait différente. Les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui, les autres pays y ont fait face il y a 50 ans. Toute la question est là. On ne peut pas continuer à penser qu'on peut faire les choses en plein 21e siècle. Vodacom et RTL le font de manière extrêmement moderne et on est dans le même pays. Et l'État lui-même est le plus grand illettré. Il n'est même pas en mesure de saisir ses bases de données. C'est complètement inacceptable.
Est-ce un problème de volonté, un problème de moyens? À quel niveau se trouve le problème?
Je vais vous dire une chose et elle est simple. Si on investit aujourd'hui dans le système informatique ou le système de traitement de l'information en République démocratique du Congo, nous allons multiplier par 10, par 15 les recettes. Tout le monde sait très bien que nos frontières sont poreuses, nos services publics de recettes sont complètement... Tout le monde le sait. Mais la seule chose qu'il faut, c'est qu'il faut avoir un système de gestion et on ne veut pas investir dedans parce que ça gêne un certain nombre de personnes.
Alors à ce niveau, faudrait-il mettre en cause la bancarisation?
La bancarisation est une excellente chose. La seule chose, c'est qu'on l'a mal faite. Parce qu'en fait, en réalité, les gens ont pensé qu'en étant fonctionnaire, on a les capacités de tout faire. Il était question là d'identifier correctement les agents. Ça, les banques ont tout un système qu'on appelle le KYC, Know Your Customer. C'est très rigoureux. On aurait pu s'appuyer sur eux et l'État congolais n'aurait pas à dépenser de l'argent. Même tout le travail d'identification des fonctionnaires que l'on fait depuis 7-8 ans au ministère de la fonction publique et qu'on ne termine pas n'aurait jamais eu raison d'être. Parce qu'on aurait simplement récupéré les bases de données qui auraient été faites par les banques sur un logiciel partagé.
Merci Alki Tengue. Professeur Michel Bongongo, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Beni au Nord Kivu.
Je réponds au nom de Gérard Kambale Kazingoufou. J'appelle à partir de Beni, province Nord Kivu. Le ministre du budget ne doit pas se limiter à la dénonciation du détournement. Il doit saisir le parquet pour qu'une enquête sérieuse soit diligentée, non seulement dans le secteur de la santé, mais aussi dans d'autres. En fait, que les couloirs à cravate soient identifiés et les contraindre à rembourser ces fonds détournés. Malheureusement, de telles enquêtes n'aboutissent jamais à cause des interférences politiques parce qu'un tel réseau mafieux ne peut opérer sans la complicité au sein des ministères qui interviennent dans la chaîne de dépenses à travers la fameuse opération dite « retour ».
Monsieur le ministre, je vous prie de répondre brièvement à cet auditeur avant de ramasser les autres aspects évoqués par Alki Tengue et Jean-Jacques Mamba.
Merci, monsieur le journaliste. Notre ami de Beni a raison, mais il faut faire de façon méthodique les choses. Contrairement à ce que mes co-batteurs, il n'y a pas ici à faire de la cosmétique. Non, c'est pas ça. Il faut faire. Les sanctions sont toujours individuelles. Les infractions sont toujours individuelles et non collectives. pour identifier les fauteurs, il faut se mettre à les connaître. Et pour les connaître, il faut des dénonciations. Et pour qu'il y ait dénonciation, il faut une dynamique, n'est-ce pas? C'est cette dynamique que nous sommes en train de mettre ensemble au niveau du gouvernement, de la dynamique de l'éducation collective, de la dynamique de la mentalisation. C'est très important pour que nous arrivions finalement à nous remettre entre les mains du pouvoir judiciaire.
Alors, professeur, il y a également des questions qui ont été évoquées sur ce plateau. Jean-Jacques Mamba, je le disais tout à l'heure, parlait de l'absence d'un plan stratégique. Comment Al-Kitenge revenait là-dessus pour s'étonner en disant comment un pays peut connaître au 21e siècle des difficultés que d'autres ont connues il y a 50 ans en parlant de l'informatisation, par exemple.
Je suis totalement d'accord avec les amis qui ont parlé. Nous ne sommes pas dans une situation d'absence totale, n'est-ce pas, d'informatisation, de volonté d'informatiser. Le gouvernement a des programmes qui sont en train de se faire, que ce soit au niveau de l'administration de la paix, que ce soit au niveau de la fonction publique, en ce qui concerne, n'est-ce pas, la paix des agents. On est en train de le faire. Nous n'allons pas faire, n'est-ce pas, de la médiatisation pour la médiatisation. Le travail est en train de se faire. Ce que nous avons fait, c'est la volonté du gouvernement de éduquer, n'est-ce pas, la population. Nous ne pouvons pas résoudre, n'est-ce pas, ce problème tentaculaire qui date des décennies. Vous savez très bien que l'État congolais est le plus grand employeur et l'État est devenu depuis des décennies la vache à lait. Et ce que l'on est en train de faire, c'est essayer de réduire, n'est-ce pas, cette propension à tuer l'État. C'est un travail difficile, ardu, que le gouvernement est en train de faire. Je pense que les études, les conseils, les propositions des uns et des autres sont les bienvenus. Le gouvernement va continuer à faire ce travail. Et ce que nous avons fait, ce n'est pas ça a été un accident, non, ça fait partie du programme du gouvernement de la République.
Merci, professeur. Jean-Jacques Mamba, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Butembo, Nord Kivu.
Je nous viens à Butembo. Je salue la déclaration du ministre car il y a certaines autorités qui sont impliquées à ce réseau mafieux. Ils ont un système, au lieu d'envoyer l'argent en banque, ils envoient ça dans le compte d'un particulier après paiement, reste opération et tout. Pourquoi le ministre s'est limité aux simples déclarations au lieu de déposer la liste de ces gens-là devant la justice? N'est-ce pas là un travail à mi-chemin de la part du ministre qui n'aboutira à rien?
Voilà, le ministre insiste sur les sanctions pédagogiques, Jean-Jacques Mamba, et John Odian voudrait que ce soit plus sévère que ça. Vous l'avez effleuré également dans votre précédente intervention.
Mais écoutez, déjà pour notre camarade qui est à Butembo, je comprends bien sa frustration. Je rejoindrai mon co-débatteur Al-Kitenge lorsqu'il parle de bien de choses qui font finalement jonction avec ce que je viens de dire. Moi, plutôt, ce que j'aimerais rajouter, c'est que, parce qu'on s'est présenté en début d'émission, sous d'autres cieux, on n'aurait pas l'impression que nous parlions au ministre du budget. C'est comme si on était, Son Excellence, excusez-moi, c'est comme si c'était l'aumônerie, vous prêchez les bonnes intentions, vous êtes en train d'expliquer, appeler à la conscience, mais je pense très bien que ce travail, l'État ne se fait respecter que lorsqu'il fait appliquer ses lois. Et lorsque vous dites que sans un système de dénonciation collective, on ne peut pas aboutir à des résultats probants, vous êtes en train de nous expliquer que l'audit n'existe pas, que l'État n'a pas les moyens de contrôler ses finances et que il faut que les citoyens aident l'État. Mais lorsque les citoyens eux-mêmes sont impliqués, lorsque quelqu'un gagne 50 dollars de salaire, comme l'a dit M. Al-Kitenge ici, comment voulez-vous que dans un système où il n'y a pas de salaire, vous alliez appeler les gens à faire de la bonne foi, d'autant plus que in fine, l'argent qui sera épargné, on n'en connaît pas la destination, parce que regardez, lorsqu'il n'y a pas d'indexation salariale, parce que l'indexation, ça va avec l'indice à la consommation, lorsque des gens font 10 ans et que vous leur ajoutez 1000 francs sur leur salaire, vous pensez que vraiment, vous pouvez faire impliquer ce type de personnes dans des efforts visant à dénoncer ceux qui détournent, d'autant plus que ceux qui détournent ne sont pas inquiétés, et en plus, l'argent qui est détourné sert finalement à enrichir des personnes autrement citées. Donc ce que je veux dire, c'est que le ministre du budget doit prendre ses responsabilités. Il ne doit pas se mettre du côté des personnes qui prêchent le bon évangile pour dire, bon voilà, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Non, il a la responsabilité de la gestion des deniers publics et c'est la rigueur et la seule règle. Il n'y a pas de règle. Cela veut dire en d'autres termes que pour le succès de sa mission, il doit mettre les moyens nécessaires, non seulement pour traquer toutes ces personnes, les porter devant la justice, mais aussi s'assurer d'une bonne réaffectation des surplus. Parce que ici, lorsque je vois 180 000 dollars et lorsque vous prenez sur une base annuelle, vous avez des millions de dollars qui peuvent être affectés à l'augmentation, à l'indexation salariale, ne serait-ce que pour une catégorie de fonctionnaires. Et pour ne parler que des médecins, parce qu'il dit que le deuxième semestre, il y aura 300 médecins en 2015. Mais je m'étonne, où vont travailler ces médecins? Ils vont tous aller travailler à l'hôpital du cinquantenaire. Quelqu'un qui passe 7 ans à l'université, d'abord qui est mal payé. L'État s'est vertué pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans à nous ressasser le fait qu'il est un État moderne. Donc, il réhabilite l'hôpital du cinquantenaire. Ils vont aller travailler où, même si ils le reçoivent.
En d'autres termes, Jean-Jacques Mamba, il faudrait repenser le système de gestion de l'État congolais.
Je reviens sur un plan stratégique, parce que dès l'instant que vous êtes dans un pays où il n'y a pas de carte d'identité, où quelqu'un peut aller s'inscrire dans 10 communes, et vous dites que c'est un État moderne et vous n'avez pas réussi après 10 ans à identifier votre propre population, c'est un échec patent. Normalement, dans des pays normaux, les gens démissionnent. Vous ne pouvez pas vous réclamer être un État moderne sans avoir un contact permanent avec votre population, un fichier d'État civil. Lorsque vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas un État moderne. Donc ce que je dis, c'est que l'échec est déjà consommé, mais nous aimerions quand même atterrir en douceur, parce que c'est vrai qu'en 15 mois, on ne va pas faire grand-chose. Atterrir en douceur, c'est quoi? C'est éviter toutes les déclarations de bonnes intentions. On aimerait voir des actes qui vont encourager ceux qui viendront après, de telle sorte que ce soit de pratique et que les gens finalement se rechignent à poser ce genre de délit.
Al-Kitenga, par exemple, proposait que ce genre de travail soit confié aux banques.
Mais écoutez, c'est une option pour aller plus vite. Effectivement, les banques ont des systèmes pour identifier la population. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Nous avons combien de banques dans ce pays? Toutes les banques que nous vendons, les banques commerciales, sont des banques de fait privé. C'est-à-dire, vous avez des banques internationales comme Ecobank, Boa et tout ça, ce ne sont pas des banques congolaises. L'État congolais a eu l'incapacité pendant ces 15 dernières années d'avoir, avoir des parties prises dans une banque de manière majoritaire pour avoir un réseau bancaire sur toute l'étendue du territoire national et contrôler la paye de ses propres fonctionnaires. Donc nous sommes en train de demander des services, et encore que ces banques peuvent le faire, mais je dirais, oui, c'est une mesure d'urgence qu'on peut appliquer, mais il faut que l'État congolais soit fier d'avoir une banque avec une participation majoritaire, de telle sorte que tous les fonctionnaires soient payés par une banque que l'État contrôle, et c'est ce que nous n'avons pas dans ce pays, à part la Banque centrale.
Al-Kitenge, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
Assistant à Séraphin Majalou Amundo, j'appelle depuis la ville de Bukavu. La déclaration du ministre est trop insuffisante, non seulement la marginalisation dans l'ordonnancement des dépenses publiques, mais aussi l'inefficacité et démutualisation des prêts des agents de l'État par défaut bancarisation, où la réforme de l'action des dépenses publiques s'impose.
Réaction Al-Kitenge, Séraphin Majaliwa propose notamment que l'on revoie la bancarisation parce qu'il pense que c'est inefficace notamment.
La bancarisation a résolu 80% des problèmes que l'on avait ici. Il faut quand même se souvenir de notre passé récent. Nous avions des comptables qui disparaissaient dans la nature avec de l'argent. Nous avions des conflits majeurs, des gens pour qui l'argent était détourné ou arrivé à moitié. Et il faut reconnaître quand même que nous avons résolu une grande partie des problèmes. Après, il faut quand même repenser de manière globale la capacité de l'État à saisir la base de données de son personnel. domaine. Et c'est là-bas qu'il y a une difficulté. Et je suis en train de dire que ce n'est pas compliqué. Les banques ont les solutions pour être en mesure de les faire. On peut leur donner une partie du travail et on peut rapatrier ces informations sur une base de données qui appartient à l'État. Quitte à l'État à faire la partie qui n'est pas couverte par les banques commerciales. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le partenariat public-privé. Je voudrais vous donner une information et elle est simple. Le directeur général de Vodacom ou de RTL, ils ont une qualité et une quantité d'informations que l'État n'a pas. C'est des informations qui sont récupérables. On fait la même chose avec la CENI, on fait la même chose avec l'ONIP, on fait la même chose avec l'Institut National des Statistiques, mais en fait, 80% des informations que l'on capte de manière disparate et désordonnée sont les mêmes informations qu'on aurait pu capter de manière simple en passant par la Poste. Revenons à ce que M. Mamba disait tout à l'heure, la Poste devrait être l'institution financière de l'État par excellence. Et aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, c'est que la bonne volonté politique et les choix stratégiques devraient être mis en place pour que nous soyons en mesure de poser des actes qui résolvent des problèmes d'aujourd'hui, mais qui les rendent également pérennes. Et ça, c'est extrêmement important.
On a beaucoup de spécialistes dans ce pays, Alki Tengue. À quel niveau se trouve le problème? Ils sont sous-utilisés, mal utilisés ou pas du tout utilisés?
Le problème de ce pays, c'est que les politiciens monopolisent la gestion de l'État. Là où ils n'ont pas des compétences, l'État ne bouge pas du tout. Dans tous les pays du monde, la plupart des missions qui ne sont pas régaliennes sont sous-traitées auprès des entreprises privées qui rendent des services. On appelle ça des services publics concédés. Et je crois que pour être en mesure d'accélérer la pénétration des compétences et des technologies dans le secteur public, il est important que l'État se rabatte dans ce qu'on appelle en anglais le outsourcing. Ça veut dire la sous-traitance de tous les métiers qui ne sont pas des métiers régaliens auprès de ceux qui en ont les capacités et qui en ont fait les spécialités. Même en Europe, aux États-Unis, au Canada, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne vois pas pourquoi on devrait faire les choses différemment. Par contre, il y a quelque chose d'extrêmement important. Le ministre, aujourd'hui, il voudrait nous dire que cette situation n'est pas circonstancielle. Bien sûr qu'elle est circonstancielle. Si on secoue le cocotier, la saleté sera très grave et c'est la raison pour laquelle on essaie de rester sur la simple partie des médecins pour lesquels on a eu une certaine pression des jeunes médecins, mais le contrat social, il est complètement périmé, il n'a pas de base culturelle et les valeurs de la nation sont en pleine dispute. Aujourd'hui, comme disait Mamba tout à l'heure, il y a une règle claire, c'est une justice basée sur la loi pour tout le monde. On ne peut pas commencer à spéculer, ce que le ministre dit n'est pas crédible, excusez-moi.
Alors il y a Rachid Iracho qui nous écrit de Mambasa qui dit soutirer mensuellement un peu et vague, que le ministre nous précise combien de temps cela a pris pour en avoir assez plus. Le peuple veut également savoir quels sont les mécanismes qui seront montés pour prévenir pareil cas aussi, ainsi que le sort réservé aux auteurs de cette fraude. Kaleba de Goma au Nord Kivu, les autorités congolaises doivent arrêter de remuer le couteau dans la plaie du peuple congolais en faisant des dénonciations pareil non suivi des sanctions. Chabani de Goma, la déclaration du professeur Bongongo n'est pas assez claire, elle paraît flouer le peuple congolais. Monsieur le ministre, comprenez-vous la frustration de ses compatriotes?
Merci, le journaliste. Le programme, c'est mettre la rigueur morale et administrative au centre de la gestion de l'État, et plus précisément du ministère du budget. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons fait une mise en place de l'administration du budget. Ce ne sont pas des propos tendancieux ou des propos pour l'Église. Non, nous sommes en train de gérer, mais il faut gérer avec méthode. Il faut gérer l'État avec une certaine minutie. C'est ce que nous sommes en train de faire et nous savons que nous allons avoir des bons résultats. Nous savons que la population est impatiente, elle a beaucoup souffert, je suis totalement d'accord, mais il faut faire les choses avec méthode, de façon à ce que le résultat soit patent. C'est ça ce que nous sommes en train de faire, n'est-ce pas, au niveau du ministère du budget. Puisque nous avons fait la médiatisation de tout ce que de ces irrégularités, ce ne sont pas des choses que nous avons montées de toutes pièces. Non.
Alors, professeur,
pour la médiatisation, ce n'est pas ça. C'est un
professeur.
Travail que nous faisons sous, n'est-ce pas, la responsabilité du Premier ministre, et nous savons que nous aurons les résultats.
Alors, professeur, en un mot pour conclure, parce que l'émission va toucher à sa fin d'ici là, vous travaillez pour avoir les résultats. Jusqu'où comptez-vous aller en un mot?
En un mot, nous allons d'abord, dès aujourd'hui, demain, sachez qu'il y aura des missions qui vont aller dans toutes les provinces de la République pour contrôler, n'est-ce pas, les listes de paie, contrôler la situation des agents au niveau de chaque province.
Merci, monsieur le ministre.
Et au bout de je crois, ils auront 3 à 4 semaines, vous aurez les résultats. Et nous viendrons vers vous pour que de nouveau nous puissions parler et discuter.
Merci. Merci, monsieur le ministre Jean-Jacques Mamba. Comment vous entrevoyez la suite d'un tel processus amorcé par le gouvernement?
Écoutez, je ne peux qu'encourager le ministre du Budget, le professeur Bongongo, dans son initiative, parce qu'apparemment, il m'a l'air très téméraire dans sa vision de patriarche, hein, une vision un peu évangélique comme ça, c'est comme ça que je le vois. Mais je vais quand même l'encourager, parce que bon, c'est quand même nécessaire que ces choses-là soient faites. Nous ne sommes pas d'accord sur la méthode, parce qu'en ce qui me concerne, j'estime que il n'y a jamais eu de sanctions dans ce pays. Dans n'importe quel pays du monde, l'absence de sanctions explique au fait, les gens quand ils sont hors la loi, eh ben, vous ne pouvez aboutir à aucun résultat. Alors, c'est très bien qu'il prêche par l'exemple. J'espère que sa démarche va toucher tous les secteurs, parce que M. Al-Kiteng l'a bien dit ici, il y a l'armée, il y a la police et tout ça. Nous espérons que sa démarche ne va pas se limiter au niveau de l'évangile, mais aussi qu'on va aller vraiment à des sanctions exemplaires, à des procès. Ça va aboutir à déboucher sur des procès, sur des arrestations, de telle sorte que la société, que ceux qui voudront prochainement se donner à ce genre d'actes puissent avoir l'assurance et la certitude que s'ils sont pris, ils seront non seulement exposés, ils répondront de leurs actes devant la loi. Moi, je pense que il faut que les choses soient comme ça. Maintenant, je ne sais pas combien de temps ça prendra. Je crains qu'on ne puisse pas le faire jusqu'au bout, parce que nous commençons déjà les élections, donc ça va être très compliqué pour tout le monde. Donc, ça serait une très lourde tâche pour ceux qui viendront. Mais si le MLC vient aux affaires, nous allons procéder autrement. On doit commencer par identifier.
On n'est pas encore dans la campagne.
Merci beaucoup.
Par rapport aux auditeurs, à la population congolaise qui nous suit en ce moment, quelle peut être la part de la population? Elle devrait notamment dénoncer ce genre de méfaits.
Oui, mais ce que je veux d'abord, c'est défendre cette population. J'ai commencé par vous dire que les salariés ou les fonctionnaires ne reçoivent pas de salaire, ils reçoivent une indemnité. Nous implorons le gouvernement de faire en sorte que le salaire corresponde au niveau de la vie sociale dans tout le pays. Et c'est tout à fait impossible. Un fonctionnaire ne peut pas gagner moins de $500 et vivre. Donc, dans ces conditions-là, même si vous demandez aux gens de dénoncer, si le dénonciateur est corrompu, nous n'allons pas avancer. Si celui qui veut dénoncer va accuser, va dire à la personne qui a commis les délits, écoute, si tu ne me donnes pas d'argent, je vais t'accuser, il va préférer recevoir de l'argent de cette personne, être corrompu, que de le dénoncer. Parce qu'il n'y aura aucun impact sur sa vie sociale.
Merci. Al-Kitenge, le président de la République, a nommé un conseiller chargé de lutte contre la corruption. N'est-ce pas de ce genre de dossier dont il devrait se saisir?
Je suis content que vous posiez la question du conseiller spécial du chef de l'État en charge des questions de corruption et de blanchiment des capitaux. Et d'entrée de jeu, il est arrivé avec un chiffre. Il dit il y a 15 milliards de dollars qui sont détournés. Mais ce genre de choses devrait nous interpeller. Nous sommes là dans un pays qui a 8 milliards de budget et qui est incapable de pouvoir assumer une rémunération décente. Et donc, bien entendu, il faut qu'il se saisisse de cette question. Mais il faudrait bien que les scientifiques se saisissent de la question aussi. Il faut que les citoyens et la société civile se saisissent de la question. Nous devons nous exorciser. Nous sommes handicapés par l'absence des valeurs. Nous avons érigé la corruption en système de vie et nous tolérons et nous acclamons. C'est complètement inacceptable. Moi, je pense simplement qu'aujourd'hui, il faut que l'État employeur, ça c'est une mesure pratique, paye directement les médecins, aussi bien en salaire qu'en prime. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'État employeur paye un syndicat et c'est le syndicat qui lui paye finalement les médecins. Et c'est de là que part la fraude. Il est important qu'on corrige.
Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais est terminé pour ce soir. Merci à Kevin Kouté, Berry Franklin, Luchaka, Paul Badianyama qui ont travaillé sous la supervision de Martin Sebujangwe. Coordination et présentation, Alain Rougouchinch. Au revoir.